et ton monde. C'est parti, oui. Alors, bonjour tout le monde, Kwekwe. Aujourd'hui, Alexandre Nekwado n'est pas avec nous. C'est une bonne nouvelle, en ce sens qu'Alexandre est maintenant papa. Donc, il est avec sa bien-aimée et son nouveau fils, tout frais livré. Je suis donc maintenant avec Gabriel Bergeron, qui est aussi membre de l'équipe formidable de Terres en vue et de Présence autochtone. D'ailleurs, le festival s'en vient, on y travaille très fort. Alors, je vous rappelle, c'est du 8 au 17 août et le 11 juillet, on dévoile la programmation. Mais d'ici là, le podcast, lui, continue son grand bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, je devrais dire grande bonne femme en chemin, puisque nous avons le bonheur d'accueillir Elisabeth Saint-Gelais, qui est une soprano innu. Elisabeth, je vais vous demander de vous présenter vous-même. C'est ce qu'on fait d'habitude ici, d'abord en commençant, mais avant toute chose, le protocole et le bon sens et l'enthousiasme me commandent de vous adresser des félicitations. Le prix d'Europe, hein, c'est tout récent. C'est un très grand prix. C'est une compétition difficile. Et là, c'est, je pense, ça veut dire une année de formation en Europe, je crois. Alors ça, c'est vraiment énorme. J'insiste parce que nos auditeurs ne sont peut-être pas familiers avec l'univers de la musique classique, mais c'est vraiment un très, très, très grand prix et ça mérite des très, très, très grands bravos en conséquence. Mais avant d'arriver à ce qu'on se parle plus de ce qui s'en vient pour vous, j'aimerais que vous nous dressiez un court portrait de qui est Elisabeth Saint-Gelais.
Avec plaisir. Je suis comme André et Gabriel pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Je m'appelle Elisabeth Saint-Gelais. Je suis une soprano. Je suis originaire du Saguenay, mais je viens de la communauté de Pessamit, sur la Côte-Nord. J'ai étudié la musique à McGill depuis 6 ans. J'ai fait un baccalauréat et puis une maîtrise en chant classique avec mon professeur Aline Coutan. Et puis, j'ai tout juste de terminer mes études et ça a été une grosse année pour moi. La dernière année de ma maîtrise, en plus d'être Révélation Radio-Canada classique 2023-2024. Et puis maintenant, on a terminé ça avec le Prix d'Europe. Donc, quelle belle saison ça. Cette année, c'était extraordinaire. Puis j'ai fait tout ça avec, bien sûr, mon partenaire de jeu, la pianiste Louise Pelletier, avec qui je fais toutes mes collaborations, tous mes concerts, sauf orchestre, bien sûr, parce qu'elle est pianiste. Mais c'est un honneur pour moi de pouvoir représenter les Premières Nations à travers le chant classique, mais aussi seulement dans le milieu des arts. C'est un énorme privilège. Puis c'est une responsabilité, je le dis souvent aussi, pour moi, je veux bien les représenter. C'est dans ma mission d'artiste. Et puis, voilà, j'adore chanter.
La question qui nous vient toujours à l'esprit, puis je ne dois pas être le premier qui la pose, mais comment ça se fait? Parce qu'effectivement, on ne voit pas beaucoup de gens de l'une ou l'autre des Premières Nations dans l'univers classique. Hein? Ben, on a eu Deanta Edwards, Inuk, femme formidable, là, qui était au festival l'an dernier et avec qui on espère avoir d'autres collaborations d'ailleurs. Puis maintenant, Elisabeth Saint-Gelais, mais quand même, c'est pas beaucoup. Là, on sait comment une jeune Innu vivant au Saguenay on arrive à être à McGill en chant classique. Déjà, y entrer, c'est pas évident. Puis, faut aussi être préparé longtemps d'avance. Faut avoir vraiment le goût d'une carrière comme celle-là. Alors, comment ça se dessine dès l'enfance, je présume, dans la famille?
Mais oui, oui.
Vous nous disiez comment ça s'est passé.
Oui, bien sûr. Avec plaisir, j'ai commencé à chanter très jeune. Autour de 6 ou 7 ans, j'ai eu mes premiers cours de chant, cours de musique, de théorie musicale également. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de chanter. C'était très naturel pour moi. J'avais ce don-là de la voix qui était assez naturel. Puis ensuite, vient l'envie d'y travailler. C'est sûr que quand on a de la facilité dans quelque chose pour un enfant, un adolescent, ben on a le goût de continuer, on a le goût de plonger vu qu'on n'a pas trop d'embûches. Donc, c'est sûr que ça a été beaucoup de plaisir là, à travers mes années d'études au secondaire avec mes professeurs. Puis j'ai appris le piano, j'ai appris le saxophone, la guitare. Donc, la musique, c'était vraiment mon monde, c'était vraiment aussi mon cercle social était dans la musique. J'ai toujours été très bien entourée, j'ai toujours été dans un milieu sain dans la musique. Donc oui, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, ben, il n'y a pas eu tant de questions, tu sais, ça a juste continué plus sérieusement au Cégep. J'ai fait ma technique de musique et chanson au Collège d'Allemand, au Lac-Saint-Jean. Et puis là, j'ai rencontré encore des personnes extraordinaires, dont ma première professeure de chant plus sérieuse, Luce Godreau, avec qui j'ai vraiment commencé ma formation technique plus approfondie. Et puis, c'est ça, il n'y a pas eu vraiment de questions. En fait, c'était juste, moi, mes parents, ils m'ont toujours très encouragée à faire qu'est-ce que j'avais envie de faire. J'avais des ressources, j'avais une bonne famille derrière moi, des bons amis. Donc, il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de doutes, il n'y a pas eu non plus d'hésitation ou d'idées, d'autres idées. C'était certain que je faisais de la musique de ma vie, puis c'est un énorme cadeau.
Oui, on peut en profiter aussi pour saluer tous ces gens en région. Hein. Moi, je suis originaire d'Abitibi, puis je me souviens, il y avait des personnes très dédiées, notamment dans le champ de la musique classique, qui auraient très bien pu viser des carrières dans la métropole, mais qui au contraire trouvaient important de développer des talents régionaux. Et c'est effectivement, ça, c'est pas. Quand vous me le dites, là, étant moi-même originaire d'une région, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu ce genre de ressources et ce genre de support qu'on puisse trouver au Saguenay. Mais la question qui demeure, mais l'univers classique, pourquoi l'univers, le chant classique pour une Innu, alors que. Je sais pas, quand on voit Innu-Nikamu, c'est formidable, mais c'est pas l'univers
Non,
classique, il n'y est pas vraiment, on est
absolument
plus
pas.
dans le pop, dans le folk, dans le chant traditionnel, mais encore au niveau autochtone, le répertoire est très, très mince, et même par contre, certains pourraient dire presque inexistant, tellement il y en a peu. Alors, comment, en tant qu'autochtone, on se sent tout d'un coup attiré et comment dire, et capable de rester soi-même dans l'univers classique.
Ah, ben, c'est une excellente question. J'y suis d'abord arrivée dans le monde de la musique classique à cause de ma voix. C'est vraiment pour ça. C'est parce que les professeurs que j'ai eus, ils ont entendu le potentiel lyrique. C'était pour moi très facile d'apprendre la technique classique pour le chant. Et puis après, je me suis beaucoup intéressée à la musique classique, les compositeurs, l'histoire des compositeurs aussi, l'histoire des poètes. J'adore la poésie de ce que je chante et puis ça m'intéresse énormément. Donc, c'est sûr qu'il y a eu ma voix puis l'intérêt, puis c'est pour ça que je suis tombée dans ce monde-là. Puis ensuite, c'est sûr que quand ça va bien, quand les gens te remarquent, t'as du succès, même à l'école, tu sais, ça allait bien, ben là, tu as le goût vraiment de continuer, tu as le goût d'approfondir. Puis le fait que je sois Innu à ce moment-là, c'est pas sur la table. En fait, moi, j'ai jamais eu honte de ça. C'est moi, je le suis, c'est ma culture, c'est mon identité. Donc, que je sois Innu ou pas, j'ai fait mes études puis j'étais très confortable avec ça. Maintenant, le fait que je suis Innu, il devient plus important pour les autres. Pour moi, il a toujours été, bien sûr, parce que c'est moi-même. Mais il devient plus important pour les autres à partir des 2 dernières années, depuis que je suis un peu plus mise de l'avant dans quelques médias et puis avec mes employeurs qui deviennent de plus en plus des gros employeurs. Donc, c'est sûr que mon visage et puis mon histoire circule un peu plus. Donc, le fait que je sois Innu, ça devient plus important pour les autres. Et puis, ils se demandent qu'est-ce qu'une Innu fait dans le milieu de la musique classique, comme vous disiez, parce que c'est pas dans la culture autochtone du tout. C'est de la musique colonisée, c'est de la musique européenne. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, c'est vraiment à cause de mon parcours que je me suis ramassée à faire ça. Les Innu, ils aiment beaucoup le folk rock. Il y a Kashtin, Florent Volant, il y a maintenant Scott Pien Picard. Il y a tellement des bons artistes qui font rayonner la culture Innu en ce moment. Puis vraiment, ça c'est ancré. Puis ça, on peut dire que c'est associé à eux, tu sais, puis à notre peuple. Après ça, moi, que je suis Innu dans un milieu classé, ça étonne les gens. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, comme vous disiez tout à l'heure, il y en a peu. Inexistant, je n'emploierais pas ce mot-là, parce que quand on est musicien autochtone, on est capable de rejoindre d'autres musiciens autochtones, d'autres créateurs autochtones, des compositeurs, des chefs d'orchestre, des artistes, des chanteurs, des musiciens. Et puis, on se rend compte qu'il y en a plus qu'on pense. Puis aussi, vu nous, on a vraiment l'esprit de communauté très fort. Donc, dès qu'on en connaît un, dès qu'on en rencontre un, bien, il nous fait rencontrer les autres. Puis finalement, on se ramasse avec vraiment un beau réseau là, d'artistes autochtones. Et puis, ceux que je parle en particulier, c'est dans le milieu de la musique classique. J'ai connu d'autres chanteurs, des compositeurs dont je suis très près. Donc, on est en train de faire des workshops avec leurs œuvres. On est en train de travailler leurs nouvelles œuvres. Je connais une compositrice extraordinaire avec qui je travaille. Elle en est à son troisième opéra en Anishinaabe. Elle a composé un oratorio. Je travaille avec un autre compositeur qui est métisse de l'Ontario.
Mais attention, là, pour nous donner des noms, là.
Bien sûr, bien sûr.
Là, on veut savoir qui c'est. Qui c'est cette bien dame là, qui a composé des opéras en Anishinaabe? Vous nous faites découvrir des trésors.
C'est un trésor, absolument. Elle s'appelle Barbara Assiginac. Je l'ai rencontrée il y a quelques années à Hamilton parce qu'on faisait un workshop sur ses nouvelles œuvres. Et puis, j'ai rencontré une femme, premièrement, spirituellement et culturellement extrêmement passionnée. C'est quelqu'un qui m'en a appris tellement sur la culture Anishinaabe et sur la culture autochtone en général, des Premières Nations, des Métis, des Inuits. C'est une femme très, très cultivée. Et puis, c'est une compositrice incroyable. Elle enseigne la composition à l'Université de Toronto. Et puis, elle est elle-même tellement touchante dans ses œuvres parce que ça c'est très connecté à la nature, très connecté à la poésie, toute simple, qui est très basée sur la forêt et les animaux. Et puis, en tant que moi, ici des Premières Nations, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est quelque chose auquel je suis extrêmement connectée là, naturellement. Donc, chanter sa musique, c'est un énorme cadeau. Donc, Barbara Assiginac, c'est son nom. Et puis, ensuite, l'autre compositeur dont je parlais, il s'appelle Ian Cusson. C'est un métis de l'Ontario. Et puis, je chante en ce moment avec piano pour l'instant, mais on va faire avec l'Orchestre de l'Agora de Montréal. On va le faire avec toute l'orchestre entier. Ça s'appelle le Récital des anges. C'est un cycle assez sombre, assez profond. Sur les poèmes d'Émile Nelligan, mais c'est Yann qui a composé, c'est de la musique vraiment intellectuelle, très, très profonde, très intellectuelle. Et puis, mon Dieu, il faut être tout qu'un musicien pour, premièrement, le composer, puis ensuite pour le jouer. C'est de la grosse musique. C'est beaucoup de travail, mais c'est absolument merveilleux de pouvoir chanter quelque chose comme ça. Et puis, j'ai fait, juste pour nommer un autre nom, un autre compositeur, il s'appelle Spy Dénommé Welsh, qui est un Anishinaabe de l'Abitibi, du nord de l'Abitibi, et puis qui fait sa carrière à Toronto en ce moment avec sa femme Catherine. Ils ont une maison d'opéra eux-mêmes qui s'appelle Unsettled Score, et puis ils produisent leurs opéras autochtones. J'ai commencé à travailler avec eux en 2017, donc ça fait quand même un bout. Et puis, c'est des gens, c'est des autochtones, c'est des gens qui écrivent des opéras autochtones. Pensez-vous comment c'est extraordinaire? Comment que maintenant, avec l'ère de la réconciliation puis de la vérité, puis l'engouement, l'effervescence qu'il y a pour la culture des Premières Nations, de pouvoir découvrir des œuvres comme ça, découvrir ces arts-là qui étaient méconnus, que vous pensiez même tout à l'heure qui étaient inexistants, ben non, il y en a, tu sais, fait que c'est vraiment merveilleux.
va falloir que vous veniez nous donner un cours ici à Terres en Vue, parce qu'on veut, on veut développer le côté classique durant le festival Présence autochtone.
OK.
Il y a longtemps, et ça va vous intéresser. J'avais été contacté par l'Orchestre métropolitain et on avait eu un concert. Mais là, c'était avant la réconciliation. Et on avait eu un concert et il y avait Tara Louise Montour, qui est une violoniste classique Mohawk, originaire de Ganawagi, qui jouait donc avec l'Orchestre métropolitain. Et il y avait aussi Brenda Gabriel, qui avait un groupe dont j'ai oublié le nom, qui faisait des chants traditionnels Mohawk de la Maison Longue, et qui était aussi du concert. Je pense qu'il y avait 15 personnes dans la salle. Ça n'avait pas soulevé les foules. Et c'est dommage parce qu'il y avait une très belle interprétation de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, où, paraît-il, on entend les tambours autochtones. Il faut avoir une meilleure oreille que moi parce que je les entends pas. La pièce est magnifique quand même. Alors, on avait eu, et j'ai vu quelque part que vous disiez à un journaliste, mon rêve, c'est un opéra autochtone au Met. Ben, Yannick, il est au Met maintenant, puis il sait déjà, puis je suis sûr que c'est un intérêt qu'il a toujours pour les cultures autochtones. Donc, c'est certainement un rêve réalisable. Et d'ailleurs, quand on voit, ce qui m'impressionne aussi, quand j'ai regardé rapidement, c'est l'éventail des genres et des époques que vous avez. Vous allez aussi bien dans le lyrique classique, mais quand même, j'ai vu quelque part là, que pour un concours, il y avait le Vici d'Amore, qui est un grand air classique de Tosca, Puccini. Faut pas avoir peur là, pour prendre un morceau comme ça qui a été chanté par toutes les grandes voix, qui a été enregistré. Donc, tout le monde a des Calas ou des Bertoldi dans l'oreille autour. Des choses contemporaines, du Wagner, du Strauss, Johann et Richard.
Oui.
Et est-ce que c'est commun, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais c'est commun pour une soprano d'embrasser un genre aussi large. Il me semble qu'on, d'habitude, les gens sont plus spécialisés, colorature, mezzo vers le Wagner. Et vous, il semble que vraiment, là, il n'y a pas de frontière.
Oui. Je vais poser une précision. Moi, je suis soprano lyrique. Donc, c'est plus large que colorature ou soprano léger. Donc, et puis peut-être, j'ai seulement 27 ans, donc au cours de ma trentaine, il y a des possibilités que ça s'enligne vers soprano dramatique. Donc, ça, c'est mon registre de voix. Je fais des choses qui conviennent au soprano lyrique. Donc, mon programme du Prix d'Europe, comme vous avez un peu mentionné tout à l'heure, c'est des choses qui vont parfaitement au soprano lyrique. On fait des choix très, très intelligents pour mon répertoire. C'est d'ailleurs la base pour avoir du succès dans des compétitions. C'est le choix du répertoire. Je pense qu'il y en a des fois qui le sous-estiment ou qui comptent sur plus que quelque chose de technique ou quelque chose de côté du ton de la voix. Mais non, en effet, moi, le répertoire, c'est très important pour moi. Puis d'être très précise dans mon type de voix, c'est une de mes priorités. Donc oui, c'est un éventail large de compositeurs parce que je m'en viens avec un beau répertoire spécialisé pour soprano lyrique. Mais c'est commun là, d'avoir plusieurs compositeurs. C'est normal, il faut chanter en plusieurs langues. Il faut savoir chanter l'italien, il faut savoir chanter l'allemand, le russe, le tchèque. Puis moi, en plus, j'ai la chance de pouvoir chanter dans des langues autochtones du Canada. Donc, ça, c'est une chance extraordinaire. Mais non, c'est assez commun là, d'avoir plusieurs compositeurs en plusieurs langues, en plusieurs styles. Mais il y a toujours quelque chose qui va être écrit pour ta voix. Puis c'est ça qu'il faut prendre, tu sais, surtout pour les compétitions, surtout pour avoir du succès. Quand on fait ses débuts, c'est très important de choisir un bon... de ses débuts, je parle, mettons, la première fois... dans une maison d'opéra, la première fois avec un orchestre ou la première fois dans un autre pays. C'est très important d'avoir le bon répertoire qui va très, qui se colle très bien à notre voix parce que c'est la première fois qu'on nous entend probablement dans cette place-là ou avec ce public-là. Donc, on veut qu'il soit content, puis on veut faire bonne impression, bien sûr. Donc, le choix du répertoire, pour moi, c'est extrêmement sérieux. Ensuite, d'avoir la richesse de connaître les langues. Je pense qu'au début, quand on commence à chanter, on commence à étudier leur lyrique, on se dit, ah oh, mon Dieu, quelle montagne de travail, de langue que je vais avoir à faire. Puis personnellement, je trouvais ça un peu fantasque. Là. Je fais comme, mon Dieu, ça va être tellement difficile, ça va être tellement beaucoup de travail. Mais bon, on y va, c'est ce que je veux faire, il faut le faire. Mais après ça, quand tu en apprends une, tu en apprends une autre, tu en apprends une autre, ça va tellement bien, ça va tellement bien, ça forge le muscle de la langue. Puis après ça, on fait des voyages, on entend les accents, on travaille la diction. Puis ça devient de plus en plus facile. Puis aussi, quand on a de la facilité, ça devient de plus en plus plaisant, là. Donc, moi, apprendre les langues à travers mon travail, c'est vraiment un cadeau. En fait, mon travail, c'est un cadeau. Je suis extrêmement reconnaissante de ce que je fais, extrêmement contente des rencontres, des concerts que je fais, des invitations que j'ai, même d'être ici. Je suis tellement contente. Merci beaucoup encore. Mais c'est vraiment c'est un très gros cadeau.
Oui, puis déjà des rôles titres. J'ai vu que vous avez joué Eurydice là, dans l'opéra de Gluck. Quel opéra magnifique! Là. Je ne connais pas tous les opéras, mais celui-là, pendant la pandémie, j'ai vu la version du maître. J'ai
Oui.
beaucoup aimé. Et là, waouh! Mais c'est quand même. Faut y trouver de la passion aussi. J'imagine, le
Ah,
choix du
merci.
répertoire, ça ne peut pas seulement être technique, dire. Voici ce qui convient à ma voix comme harmonisation,
Faut l'aimer,
orchestration.
bien sûr. Faut
Oui,
l'aimer,
puis
mais oui.
faut. Et en tout cas, j'écoutais tantôt, on mettra le lien, là, mais sur YouTube, on vous entend chanter l'Ave Maria de Schubert, encore un truc archi connu, mais on sent que vous y mettez de l'âme. Donc, j'imagine aussi dans le choix que vous faites, il doit y avoir quelque chose de plus profond que tout simplement l'aspect ceci convient à ma technique vocale, quoi.
Ah, bien sûr qu'il faut aimer la musique qu'on chante. Il faut l'aimer. Comme je disais, je suis tellement reconnaissante. C'est un vrai cadeau de découvrir des grandes œuvres. Je fais les Wesen donc Lieder de Wagner avec un orchestre, c'est envoûtant. C'est complètement magique comme moment. Ben, pas grâce à moi, mais grâce à l'œuvre. C'est vraiment pour ça que c'est merveilleux. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est à cause des œuvres, c'est à cause de l'amour de la musique. C'est exactement pour ça. Puis je voulais revenir sur tout à l'heure, vous m'aviez parlé de Yannick Haumette. Justement, Yannick, c'est tellement une grande inspiration pour moi. J'ai fait une masterclass avec lui il y a quelques années. Puis ça a été un moment vraiment marquant dans ma vie. Ça a été la rencontre d'un homme aussi humble que intelligent et avec beaucoup de succès. Donc, puis ça m'a vraiment inspirée pour ma carrière d'être ce genre de personne-là, tu sais, qui a du succès, mais qui amène sa gang avec elle, puis qui remercie beaucoup parce que je pense que le vrai succès, là, c'est de le partager avec les gens qu'on aime, de le partager avec ses collègues. Je pense qu'être au succès tout seul, ça doit être difficile, ça doit être triste. Donc, non, Yannick, c'est une grande inspiration pour moi d'être humble, puis de bonté, de générosité, puis aussi, en plus de ça, d'être un musicien, puis un artiste incroyable, d'être un chef d'orchestre intelligent, passionné. Il est incroyable. C'est une grande inspiration pour moi. Puis, encore plus, cette année, il a fait produire un opéra entièrement afro-américain. Ça a été un gros succès. C'était sold out toujours. Il y avait des chanteurs tellement talentueux. Et puis, c'était écrit par un Afro-Américain. C'était l'histoire d'un Afro-Américain chanté que par des Afro-Américains. Donc, c'était grandiose, t'sais, pour l'histoire des États-Unis, je pense, là, pour une institution comme le Metropolitan Opera de faire une chose comme ça. Donc, c'est sûr que l'autre fois, et quand j'ai discuté avec Marion Newman, qui est une autre mezzo-soprano autochtone de l'Ontario qui anime maintenant le Saturday Afternoon à The Opera à CBC Music. Puis c'est là que j'ai fait une entrevue avec elle il y a le 1er juillet. Et puis, on parlait de ça, d'avoir un silly dream, un rêve un peu fou de qui présente un opéra écrit par un autochtone, chanté que par des autochtones. Ça, je ne sais pas si ça se pourrait parce qu'on n'est pas tant que ça, mais imaginez qu'il y ait ça parce que New York, c'est vraiment pas loin du Canada. Puis il y en a beaucoup aussi des autochtones aux États-Unis. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment puissant là, comme message. Puis je pense que c'est pas. Avec Marion, elle disait que c'était peut-être un peu fou, mais non, finalement, je pense pas que c'est si fou que ça, là. Je pense que ça serait un méchant beau rêve.
Oui, ben d'ailleurs, je sais que même ici, l'Orchestre symphonique de Montréal, c'était le grand projet du 350e. Ils avaient eu des budgets, ils avaient demandé à Thomson Highway un livret d'opéra. Et effectivement, ils ont même tourné dans les communautés nordiques. Mmh. Mais vous étiez encore allé aux études, parce que vous auriez sûrement été personne visée pour faire partie de ce projet-là.
Chaque chose en son temps.
Voilà, voilà. Mais je parle à l'occasion avec les gens de l'OSM, ce qu'ils m'ont invité l'an dernier au Classical Next à Hanovre, pour qu'on anime ensemble un atelier justement sur le classique et l'autochtonie. Et ça a été fort intéressant. Il y avait, d'ailleurs, on a fait un podcast avec lui, on a connu Gabriel Pavillon, qui est un compositeur qui a composé lui aussi des œuvres lyriques, mais en nahuatl, une des langues autochtones du Mexique.
Wow.
Et voilà, et on espère, il y a une œuvre dans le Sitchin Nahuatl qui est un show qu'il promène. On espère pouvoir l'avoir l'an prochain à la présence autochtone. J'essayais d'avoir une collaboration et ça s'en venait avec la maison du Bon Pasteur, mais là, quel drame! Hein? On a perdu une salle extraordinaire.
C'est un désastre.
C'est
un énorme drame. Le prix d'Europe il était supposé être là d'ailleurs. Puis une semaine avant, c'est arrivé. Puis c'était vraiment. Bon, le directeur, M. Blanchet, là, on était vraiment de tout cœur avec lui. Là, parce qu'il y a la salle Bourgie à Montréal qui était un peu le même, dans la même envergure. Par contre, la salle Bourgie, c'est très international. Ils reçoivent. Il y a une programmation plus internationale. Puis la salle du Bon Pasteur, c'est vraiment pour nous, tu sais. C'est vraiment pour les artistes de Montréal puis du Québec. C'est une salle, on se sent accueilli justement par M. Blanchet qui fait un travail extraordinaire. Puis moi, c'était encore plus douloureux, tu sais, parce que c'est vraiment la maison là, pour les artistes classiques de Montréal. C'est vraiment un endroit où on se sent vraiment bien accueilli chaleureusement. Donc, ouais, ça a été vraiment difficile, vraiment, vraiment triste.
Oui, puis Bourget aussi, surtout si on veut faire du répertoire contemporain où le public est plus difficile à rejoindre, c'est une très grande salle.
Absolument.
J'ai vu un concert là, avec le nouvel ensemble moderne, magnifique d'ailleurs, et la salle n'était pas pleine. Il y avait du monde, là, mais c'était pas vide. Là. Mais, c'était pas une salle pleine comme ça l'aurait mérité, alors que c'est une salle plus intime comme, comme l'était le Bon Pasteur.
Ouais.
Là, on l'a rempli, puis là, il y a tout, on a tout ce plaisir là, collectif d'être emporté ensemble, au coude à coude. Il y a là un bonheur que permettait cette salle. En plus, évidemment, des qualités sonores, architecturales. C'est une perte, un désastre, mais il faudra s'en remettre et trouver d'autres endroits. On va s'y mettre très certainement.
Oui, jusqu'à la restauration, je suppose, mais oui, en effet, il faudra s'en remettre.
Oui, il faut la remettre en place. Vous avez bien raison. Il faut parler de reconstruction et de restauration. Ouais. C'est bien ce que j'aurais dû dire. Merci de me corriger.
Ah, mais non, il n'y a pas de problème.
Et là, le prix d'Europe, là, vous allez en Europe, est-ce que vous avez déjà un programme?
Oui, je pars en Italie dans 2 semaines. L'an dernier, je suis allée en Allemagne pour approfondir ma connaissance de l'allemand et puis de la diction et puis aussi j'ai travaillé Johann Strauss, on a fait la chauve-souris, qui est une œuvre tellement incroyable. Je tombe en amour avec Die Fledermaus. C'est drôle, c'est bon, c'est touchant aussi, c'est du génie. C'est du génie, j'adore cette œuvre. J'ai tellement eu de plaisir à faire Rosalinde avec la gang là-bas. Et puis bon, cet été, avec le Prix d'Europe, je m'en vais à Florence. On s'en va étudier le bel canto. Qui est une technique de chant propre à l'Italie, puis aussi propre à certains compositeurs, donc Donizetti, Bellini, Rossini, c'est des compositeurs qui font exactement la technique bel canto dans leur composition. Et puis, chaque chanteur se doit d'aller faire son tour, là, puis d'améliorer sa langue, c'est sûr. Donc, moi, je suis rendue là. Aller passer un peu de temps en Italie pour apprendre la langue. Donc ça, avec une partie de mon prix, c'est mon voyage que je fais. Par contre, je ne passerai pas l'année là parce que j'ai une année très remplie ici au Canada. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. Je vais revenir pour le début de ma saison 2023-2024. Je suis extrêmement chanceuse d'avoir du beau travail comme ça, d'avoir un agenda rempli jusqu'en juillet 2024. Je ne peux plus rien prendre, sauf des petits miracles, mais sinon... C'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, je vais revenir travailler, mais avec l'autre partie du prix, ben, c'est sûr qu'on va se trouver quelque chose à faire là, pour continuer le développement de carrière.
Et est-ce que vous pouvez nous révéler déjà des choses où on pourra vous voir? Parce que vous allez nous faire le bonheur d'être ici aussi, pas seulement... Vous gardez un pied au Canada, même si vous en avez un autre en Italie. Alors,
bien sûr.
Est-ce qu'il y a des moments là où il reste... Est-ce qu'il y a encore des places où il y a des billets à vendre?
Oh, je pense que oui, I'm the gentle, tu dis ça. Non, je pense que oui, on a des beaux concerts de prévus à Montréal en majorité. Justement, en parlant de la salle Bourgie, le 30 septembre, la journée de la réconciliation et de la vérité, la salle Bourgie a fait une commande à Barbara Cijnak, dont je parlais tout à l'heure. Elle compose une musique sur le poème de la poétesse Inou Maya Cousineau-Mollen, qui est une poétesse vraiment extraordinaire. Et puis, moi, je vais chanter ça. Au Musée des Beaux-Arts de Montréal, à plusieurs heures différentes de la journée. C'est une œuvre a cappella avec le texte de Maya et la musique de Barbara. Donc ça va être, mon Dieu, j'ai hâte. Ça va être un moment, ça va être plusieurs moments dans la journée et je suis certaine que ça va être rempli d'émotions pour cette journée vraiment spéciale, très spéciale pour moi, spéciale pour ma famille, ma communauté, puis j'espère spéciale pour même beaucoup d'Alloctones. C'est une journée très importante maintenant, puis il faut la célébrer, il faut être conscient que cette journée-là, grâce à Joyce, elle est devenue significative, puis c'est important de la considérer. Ensuite, si on continue dans l'automne, j'ai un très beau concert avec l'Orchestre des Jeunes de Montréal, que je vais faire Tchaïkovski, donc la scène de la lettre, Tatiana Letter Scene, que ça s'appelle. C'est un air d'opéra entièrement en russe qui dure 16 minutes. Donc, on va faire ça avec l'orchestre, ça va être extraordinaire. Puis eux, ils ont un beau programme pour compléter la soirée avec Wagner et puis Shostakovich. Et puis, on continue vers la fin novembre avec l'Orchestre d'Agora qu'on va présenter justement le cycle que je parlais tout à l'heure de Ian Cusson, qui est sur des poèmes de Émile Milligan. Donc, on présente ça pour la première fois avec orchestre. C'est la toute première fois qu'il va avoir eu orchestration sur cette musique-là. Donc, je pense que ça va être très, très intéressant. J'ai été invitée, je suis tellement contente, j'ai tellement une belle invitation de l'Orchestre de l'Agora pour le Gala de la Terre, qui est un gros événement qu'ils font souvent. Et puis, c'était tellement gagé comme événement. J'apprécie énormément Nicolas Ellis, le chef, parce que son orchestre s'est trouvé une voie engagée socialement. C'est tellement rafraîchissant, t'sais, de voir des jeunes avec une voix qui s'en servent, là, qui vont chercher des causes, des choses comme ça. C'est tellement. Ah, ça donne espoir, là, que l'art, ça fait vraiment la différence. Fait que ça, je trouve ça vraiment emballant. Donc, je vais être au Gala de la Terre. J'ai une tournée en Abitibi, justement, qu'on parlait de l'Abitibi tout à l'heure. Je vais être à Amos, à Val-d'Or et puis à Rouyn pendant 3 jours avec ma pianiste Louise Pelletier. Ça va être en mars. Et puis, j'ai plusieurs autres dates. J'ai avec l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord. J'ai également avec l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Donc, j'ai une superbe saison. Beaucoup de travail devant moi, beaucoup de musique, la belle musique. Je peux pas demander mieux. Puis toutes mes dates sont sur mon site internet qui s'appelle elisabethsaintgelais.com. Donc on peut rien manquer si on est là-dessus. Puis voilà.
Oui, ben on va y aller, puis on va être attentif parce qu'on va. Gabriel Bergeron, là, qui dit pas grand-chose, mais qui n'en pense pas moins, c'est elle aussi qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Alors,
OK.
on va bien laisser savoir parce que je suis sûr que là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui. Pour vouloir en savoir et en découvrir davantage. Mais j'aimerais que vous me parliez peut-être un peu vous disiez, l'orchestre de l'Agora, de leur engagement et comment ça vous touche. Alors, pouvez-vous nous parler un peu c'est quoi cet engagement et en quoi là, votre cœur solidaire bat fort pour ce qui s'en vient.
Oui, bien sûr, pas de problème. Mais en fait, c'est sûr que moi, je travaille pas là, ni c'est ma première collaboration avec eux. C'est juste, c'est sûr que je les admire depuis un bout. Puis Nicolas Ellis, le chef d'orchestre, puis le directeur, il vient de Chicoutimi aussi, comme moi. Donc, ça fait longtemps, tu sais, qu'on se connaît. Puis, mais c'est juste que l'autre jour, je suis allée à leur lancement, tu sais, de saison, puis on a fait un événement pour parce que j'allais être dans la prochaine saison, donc j'ai chanté un peu, puis c'était un super bel événement dans une bâtisse qui appartenait à un collectif environnemental. C'est vraiment, ils sont très engagés, premièrement pour l'environnement, avec le Gala de la Terre. Je sais que tous les fonds vont à des organismes environnementaux. Et puis, je sais qu'aussi, ils font des choses pour les enfants, ils font des choses pour les communautés un peu plus démunies. Ils s'engagent, je sais qu'ils ont fait des concerts dans des milieux carcérales. T'sais, ils sont très passionnés de musique, mais pour toucher les gens. T'sais, c'est pas, il y a comme une raison derrière ça. Puis il y a un concept, t'sais, que j'ai appris à l'école, j'ai fait un petit peu d'administration qui s'appelle l'entrepreneuriat social. Et puis, ben, on se rend compte que ça peut s'accorder avec toutes sortes de milieux. T'sais, on pense peut-être que c'est juste ceux qui ont beaucoup d'argent qui pourraient faire une différence, ou des grosses entreprises ou des grosses industries. Mais non, regardez finalement un orchestre fondé à Montréal par des étudiants qui maintenant ont un énorme succès. C'est plus un orchestre étudiant du tout. Mais après 10 ans, bien, ils sont très engagés, puis ils en font une différence, c'est sûr, par la musique, par leur engagement, par leur message. Maintenant, Nicolas, il a une voix, puis Nicolas, c'est un chef. T'sais, il va aller tellement loin. Il est prisé par les plus grandes agences. C'est un homme, c'est un musicien extraordinaire. Donc, de voir quelqu'un avec une notoriété comme ça qui donne sa voix pour des engagements sociaux comme ça, c'est vraiment inspirant. C'est inspirant parce que oui, c'est cool, on fait de la musique, c'est le fun, puis on est grateful, puis pas de problème, puis on a du fun de faire ça. Mais là, tu rajoutes une couche en plus. Moi, j'essaie de travailler pour que l'histoire des Premières Nations, il soit pas oublié, que ça soit mis sur la table, qu'on écoute les Premières Nations, puis surtout qu'ils se sentent en sécurité puis aimés dans notre société. Pas juste en art, dans tous les milieux de la société canadienne. C'est vraiment pour ça que je travaille, pour les Métis et les Inuits aussi. D'ailleurs, ça, je trouve ça très important de toujours nommer les Premières Nations, les Inuits puis les Métis, ils n'en font pas partie, donc il faut toujours nommer les trois. Puis ça, ça fait tout ça, ça met encore plus de sens au métier qu'on fait, encore plus. Donc, c'est pour ça que ça m'emballe autant de travailler avec Nicolas et son orchestre.
Oui, d'ailleurs, ben, puisqu'on en parle, là, je ne peux pas me retenir. Là, je vais livrer un secret parce que c'est le
Oui.
11 juillet qu'on annonce la programmation officielle de présence autochtone. Mais il y a en Bolivie un orchestre d'instruments natifs de Bolivie qui demande,
Oh.
qui utilise que des instruments fabriqués, livrés par des aînés de différentes nations autochtones de Bolivie. Alors, ils n'utilisent que des instruments très traditionnels issus des cultures autochtones du pays. Et c'est des auteurs contemporains qui composent pour l'orchestre. Et là, il y a un détachement de musique de chambre, parce que l'orchestre au grand complet, c'est un peu compliqué. Je pense qu'ils sont une trentaine à faire déplacer, ça aurait été compliqué. Mais il y a quand même une douzaine de musiciens qui vont être là et qui vont interpréter des œuvres et donner un concert qu'on aurait rêvé à la chapelle historique du
Ah, c'est
Mont-Royal.
sûr. Ben, je comprends. Ben, là, c'est
Mais
sûr.
là, il sera dans une autre salle, mais ils vont aussi donner des ateliers sur des instruments de là-bas. Alors là aussi, on peut voir un mariage entre, d'une part, l'hyper contemporain des compositeurs
Wow.
actuels, la tradition autochtone la plus ancienne et le classique. On
C'est
peut voir
merveilleux.
que oui, effectivement, la musique crée des ponts
Ah, elle est là pour
formidables.
ça, hein, c'est ça. On ne peut pas mieux
Voilà.
dire. C'est exactement pour ça que ça existe. Je suis
Voilà.
totalement d'accord.
Voilà. Puis vous, au train, voir les choses, vous ne pourrez pas venir à présence au docteur, vous allez être à la Scala
Je garderai toujours du temps pour les gens qui ont envie de s'intéresser au peuple autochtone. Ça, c'est sûr, parce que c'est dans l'ADN de mon art. C'est dans l'ADN de ma mission artistique. Donc, ça, c'est sûr et certain que je garderai toujours du temps pour parler des Premières Nations, des Métis, des Inuits, pour leur faire entendre leur voix, pour les faire connaître, pour qu'ils se sentent bien en sécurité, pour que des choses atroces arrivent plus jamais. Ça, je vais toujours garder du temps pour ça. C'est très important pour moi.
Ben, écoutez, c'est formidable de vous avoir. Hein. Je me souviens, un jour, Natacha Canapé-Fontaine m'avait dit dans une rencontre, André, j'ai le même âge que le festival. Exactement. J'ai dit, justement, c'est en pensant à toi qu'on l'a fondé, ce festival.
Wow.
Et quand je vous vois aujourd'hui, quand je vois tout le talent autochtone qui est là, je me dis oui, on avait visé juste parce qu'on disait justement à tous les décideurs qui nous regardaient de haut, puis avec scepticisme,
J'en doute
puis
pas, j'en doute pas.
parfois même avec hostilité, on leur disait, écoutez, la pyramide des âges est très étendue vers le bas chez les Autochtones. Et il y a un contexte de crise identitaire et c'est les deux conditions qui font émerger des artistes, et les artistes prennent tout leur sens, leur travail artistique prend tout son sens, justement, pour faire avancer des choses, justement, parler de guérison. Arthur Lamothe, dans Les Contes des songes, le titre anglais du film, c'était Shaman Never Dies. Et le film commence en disant que, effectivement, le rôle du chaman était de rétablir l'équilibre en situation de déséquilibre. Et souvent, c'était par le chant de récits, la musique, les tambours, que la guérison s'opérait. Donc, effectivement, on peut voir comment, justement, quand vous nous parlez d'être là avec les poèmes de Maya Molen au Musée des Beaux-Arts, comment on est tout à fait dans cette logique où on avance et où les artistes sont vraiment là, dans le peloton de tête de nos avancées.
Oui. C'est le temps, c'est l'heure, c'est le X, on est là-dessus, là, on est sur le X. Ça aurait pu être plus tôt, ça c'est sûr, mais regardez, on y est, puis mon Dieu, quel honneur de faire partie de ça, quel honneur de pouvoir parler de ça. Je suis extrêmement. C'est une responsabilité, c'est très, très lourd à porter. Puis c'est pas parce que je sais qu'il y en a, c'est pas parce qu'on est autochtone qu'on en a toutes les réponses ou qu'on a toujours raison ou peu importe. Mais je pense que moi, ça me tente. Ça me tente vraiment de soutenir ça. J'ai vraiment le goût. Je pense que j'ai le dos assez fort pour tenir ça. C'est correct. Puis je le prends. Puis je veux que ça avance. Je veux que ça avance.
Bon, je suis sûr que vous avez le dos, la colonne vertébrale, les cordes vocales et la volonté au cœur. Dites-moi.
Vous êtes gentil.
Non, je ne suis pas gentil, je suis froidement réaliste dans tout ça. Malgré mon. C'est sûr que j'y mets un peu d'enthousiasme, mais bon.
Non, mais vous savez, André, oui. Les gens qui s'intéressent, qui font des festivals comme vous, qui s'en est toujours intéressé. Tu sais, je pense aussi à Serge Bouchard, je ne sais pas si vous, ça vous dit quelque chose. Ces hommes-là aussi, puis ces femmes-là qui s'intéressent, qui tendent la main, qui ont envie de découvrir, puis qui vont toujours avec beaucoup d'amour puis d'amitié, ils font toute la différence. Fait que, tu sais, je suis tellement contente de voir que vous êtes investi comme ça. Gabriel aussi, puis tu sais, je vous remercie infiniment. Les allochtones qui tendent la main, les allochtones qui vont avec l'amour et l'amitié envers les peuples autochtones, c'est vraiment merveilleux. C'est un beau cadeau que vous nous faites. Puis moi, en tout cas, je vous accueille à bras ouverts quand c'est fait avec la bienveillance.
Parfait. Alors, Gabriel, je pense que c'est un beau compliment qu'on vient de vous faire. Et moi, je peux dire aussi qu'effectivement, sans les alliés...
les alliés, c'est ça.
Sans alliés, on n'aurait pas vraiment pu trouver nos ailes, justement. Alors, voilà. Si on est allé, c'est grâce à nos alliés. On pourrait...
Absolument, André.
Voilà. Alors, je pense que là-dessus, c'est le moment de vous laisser. Je sais que votre agenda est très, très, très occupé. Et
oui.
merci Tsinish Koubitine d'avoir pris ce temps pour partager avec nous.
Et le plaisir est pour moi. Et puis, merci encore pour l'invitation. J'ai passé un super beau moment.
Oui. Ah, puis il ne faut pas j'oublie, avant de terminer, aujourd'hui, ça vient de sortir des nouvelles. Il y a une pièce d'Émilie Monet qui va être présentée au Théâtre d'Avignon. C'est la pièce qu'elle a fait Marguerite Lefeu, si ma mémoire est bonne, autour de Marguerite Duplessis, cette esclave autochtone qui avait fait un procès pour disant qu'elle, justement, dans son cas, puisqu'elle était baptisée, l'esclavage ne devrait pas s'appliquer. Mmh. Alors, un grand personnage historique, et Émilie Monet s'est beaucoup intéressée à cette personne engagée déjà dans une lutte pour les droits des Premières Nations à une époque lointaine.
Elle a fait une
pièce magnifique qui a été créée ici là, à l'Espace Go. Mais là, maintenant, au Théâtre d'Avignon, alors...
Beau succès!
Les femmes autochtones, là, vraiment, là, sont en train de faire péter tous les plafonds de verre et on est bien heureux de voir tous ces fragments de verre tomber.
C'est à cause de la force de nos ancêtres
qui
nous ont donné à travers les générations. C'est pour ça que maintenant, on a du succès et on casse des plafonds de verre, comme vous dites.
Parfait. Alors, on va vous laisser à votre travail de défonceuse et de fonceuse.
merci.
Et puis, certainement, on aura d'autres occasions, sans doute, de reprendre un podcast, peut-être au retour d'Europe, pour que vous fassiez un compte-rendu. Parfait.
Avec plaisir.
Merci à Gabriel Bergeron.
Oui. Niente, Gabriel, niente, André.
Niente.
Bye.
Voilà.